Alors, je propose de passer au budget. Donc, Raymond, je te repasse le micro.
Merci. Bien, c'est dans la lignée du DOB qui a été présenté tout à l'heure. Nous avons effectivement cette année un budget primitif tout à fait atypique, puisque vous connaissez les événements sur lesquels je ne vais pas revenir, et qui nous ont fait préparer un budget avant le confinement pour le voter après, avec les incidences qu'a pu avoir cette période difficile. C'est un budget... comme je l'ai toujours dit, un budget est une prévision, mais en l'occurrence, cette fois-ci, c'est vraiment le cas de le dire, puisqu'on ne sait pas quelles vont être les conséquences dans l'avenir ou proche avenir des événements que nous avons vécus. Nous avons fait un budget prudent, car, comme disait Jean-Luc à l'instant, on essaye de préparer l'avenir et de ne pas mettre tous les deux dans le même panier, et de pouvoir réagir, si besoin est, sur différentes dépenses qui pourraient nous arriver. Alors, le budget primitif, on a l'habitude, pour ceux qui n'étaient pas là, de le présenter en images et en couleurs, qui permet d'avoir un peu une vision un peu moins abstraite des chiffres et vous éclairer un peu plus sur la lecture du budget. Alors, voilà, donc la première diapo, donc, c'est simplement pour vous rappeler les grands chiffres de ce budget, c'est-à-dire les dépenses totales pour 34 800 080 000 euros, les dépenses réelles, c'est-à-dire celles qui font vraiment fonctionner la commune, c'est-à-dire hors toute opération comptable et autres, pour 27 534 869 euros. Ensuite, la population, donc vous voyez que la population s'établit à 21 819 habitants, avec les comtés à part 22 193, et pour une fois, parce que vous savez que les modes de recensement ont changé, et jusqu'à présent, on avait plutôt l'habitude de perdre des habitants que d'en gagner. Donc cette fois-ci, on en a gagné peu, mais on en a gagné 50 quand même. Ensuite, donc, les dépenses totales du budget se présentent, vous voyez, ça c'est les dépenses totales, c'est-à-dire investissement et fonctionnement rassemblés. Donc le fonctionnement pour 21 880 000 euros, les dépenses d'investissement pour 9 247 000 euros, on reviendra un petit peu sur ces chiffres en détail tout à l'heure, le capital de la dette pour 3 103 000 euros et les intérêts de la dette pour 650 000 euros. Ensuite, nous avons bien évidemment les recettes qui, bien évidemment, sont du même montant que les dépenses, et donc représenté d'une part par la plus grande partie qui est donc les impôts et taxes, les dotations et subventions, l'emprunt, les recettes, les excédents et les opérations comptables qui concernent notamment l'autofinancement, résultats, etc. Alors les dépenses totales de fonctionnement pour 22 530 000 euros, la principale dépense... c'est les dépenses de personnel qui représentent 42-43% pratiquement de ces dépenses totales. Ensuite, vous avez les autres charges de gestion courante dans lesquelles on retrouve le CCAS, les subventions pour 69% aux associations, les frais financiers pour 650 000 qui sont en légère baisse, les autres dépenses dans lesquelles ils sont compris notamment les dépenses imprévues, puisque vous savez qu'on a droit à prendre 7,5% des dépenses du budget précédent. Et là, en l'occurrence, on a pris une provision de 900 000 euros qui correspond à 5,3% des dépenses. Ensuite, l'autofinancement et les charges à caractère général, qui sont en fait les charges qui font tourner les services de la mairie, qui sont aussi bien les crayons, les pièces de rechange, enfin, etc., qu'on retrouve dans ces charges à caractère général, les contrats d'entretien, l'énergie, etc. Donc, en résumé, les dépenses de fonctionnement, donc 18 320 000, en baisse de 70 000 par rapport à 2019, donc 0,38%, sachant qu'il y a une baisse de moins 186 400 euros pour les charges à caractère général, Alors, c'est dû à quoi? C'est dû notamment aux fêtes et cérémonies qui ont été annulées, malheureusement, par les événements, par les recettes de cantine, les recettes, de façon générale, de bâtiments et de piscines, etc. Par contre, il est inclus dans ce chiffre les 150 000 euros que nous a coûté jusqu'à présent les masques, les hydroalcooliques, les différentes mesures qu'on a prises, sachant qu'on a quand même commandé 22 000 masques adultes, 2 500 masques enfants et 45 000 masques chirurgicaux. Voilà, pour vous donner un peu l'ampleur de la chose, quoi. Alors ensuite, les autres charges de gestion courante, ben, il y a une augmentation qui est due au fait que depuis cette année, nous sommes obligés de contribuer à financer les écoles, c'est-à-dire Jean 23, écoles privées pour les écoles maternelles. Auparavant, c'était juste les élémentaires, donc cette année, on a cette charge en plus. On baisse légèrement les charges financières de 50 000 euros. On a des charges exceptionnelles, notamment dues à un remboursement du Covid pour différentes manifestations, pour la piscine, la cantine, etc., qu'on a remboursé, et 30 000 euros de dépenses diverses. Ensuite, les recettes de fonctionnement. Donc, vous voyez que la plus grande partie, c'est les impôts et taxes. Donc, dans cette rubrique, on a les impôts pour une plus grande partie, pour 8,6 millions. On a Metz Métropole avec ses attributions de compensation et la dotation de solidarité communautaire, la taxe sur l'électricité et les droits de mutation. Voilà ce qui est représenté en gros principalement par ces impôts et taxes. Ensuite, les dotations et subventions reçues. Donc là, on retrouve en fait tout ce qui est les subventions qui sont distribuées par l'État, notamment la DGF, la dotation globale de fonctionnement, la CAF, Et puis la CAF, c'est parce qu'en fait, elle participe chaque année à 50% des investissements dans les maternelles, enfin dans la petite enfance, oui, pardon, la taxe d'habitation, la DSU et la dotation nationale de péréquation. Voilà ce qui représente les 5 128 000 euros. Ensuite, les produits du domaine, dans lequel on retrouve tout ce qui est de piscine, le scolaire, le stationnement et aussi la participation de Metz Métropole. Dans les autres produits de gestion, ce sont les revenus des immeubles, principalement, et dans les atténuations de charges, ce sont en fait les remboursements de frais de personnel pour maladie, arrêt de travail. Alors, les recettes réelles de fonctionnement, voilà, vous avez moins 309 000 pour les produits du domaine, puisqu'en fin de compte, la cantine, les piscines et autres sources de recettes ont été arrêtées et fermées pendant un certain temps. Ensuite, vous avez les 185 000 pour les impôts et taxes et 227 000 pour les dotations et participations reçues. Alors, comme il vous est noté en bas, la comparaison se fait toujours par rapport au budget primitif de l'année précédente. Or, l'année précédente, nous n'avions pas eu la notification des différentes dotations et différentes bases d'imposition, alors que cette année, nous les avons eues et elles sont définitives, quoi. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on prenait à l'époque, pour être sûr et pour ne pas avoir à présenter un budget trop optimiste, on prenait 80% de la somme des années précédentes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on compare à 80% la somme précédente, effectivement, on a un écart, mais qui n'est pas un vrai écart, en fin de compte. Ensuite, 56 000 pour les autres produits de gestion, ça, c'est tout ce qui est location des différents patrimoines qu'a la commune. Et pour équilibrer tout ça, 3 648 pour les autres recettes. Ensuite, les dépenses totales d'investissement. Donc, vous voyez comment elles se répartissent. Les opérations, donc on a les opérations pour le culte, pour la culture Europa, les sports loisirs, le scolaire, la famille, et notamment dans le scolaire à famille, il y a le restaurant scolaire, les voiries, espaces divers, l'aménagement urbain, et dans l'aménagement urbain, il y a le quartier Élysée, puisqu'en fait, on participe avec le PFL ou le PFL participe avec nous, comme vous voulez, à 80% dans tout ce qui est les études de pollution et de démolition. Alors, ensuite, donc, les recettes totales d'investissement. Donc, la subvention, en fin de compte, c'est une subvention d'État qui aurait dû nous arriver l'année dernière et qui concernait la salle Europa et qui date normalement devant une subvention de 2017. Ensuite, les emprunts pour 3 540 000, l'autofinancement pour 4 210 000. Je vous fais remarquer que c'est une chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, nous avons un emprunt qui est inférieur à notre autofinancement, donc ce qui nous permet de nous garder et de constituer une marge. Ensuite, les opérations diverses comptables donc qui sont faites chaque année dans l'équilibre de ces budgets. Les dotations dans lesquelles il y a le FCTVA, le fonds de remboursement de la TVA qui est fait par rapport à l'année N-2 et qui a un taux de 16,4 et non pas de 19,6. Mais enfin, c'est plutôt un fonds d'aide à l'investissement qu'un fonds de TVA, enfin pour moi. Et puis les taxes d'aménagement. Alors ensuite, donc l'investissement, pardon, donc l'investissement s'élève à 5 050 000 avec les crédits reportés, donc en gros 5 910 000 pour 2020. Donc l'opération principale, on l'a dit tout à l'heure, donc le restaurant scolaire avec 2 250 000 inscrits au budget et 100 000 pour le mobilier. Alors je n'ai pas détaillé un peu plus cette partie investissement parce que Jean-Luc reviendra un petit peu dessus tout à l'heure pour compléter et détailler peut-être un peu plus les choses que ce que je vous ai fait là, puisque comme vous aviez les documents, je vous ai laissé un petit peu vous reporter aux documents. Ensuite, la dette de la commune, donc l'annuité est 3 750 000, intérêt 650 000, capital 3 100 000. Donc l'endettement au 1er janvier 2020 soit est de 1092 euros par habitant. Par rapport à la strate qui est de 1036, donc on est légèrement au-dessus. Et les comparaisons qui vous ont d'ailleurs été marquées dans le débat d'orientation budgétaire, avec Thionville qui est à 1587, Voipy 1726, Forbach 1681 et Sarreguemines 1218. Donc vous voyez que... Sûr ? Ah oui, j'avais loupé la diapo. Je parlais tout seul, mais moi, j'ai les diapos sous les yeux, c'est pour ça. Donc, voilà. Donc, en fin de compte, si vous voulez, par rapport aux autres communes de la région, enfin, de la Moselle, on est, on va dire, pas trop mal passé, puisque on est à 1092 pour les autres qui sont plutôt aux environs de 1600, 1700 euros par habitant. Voilà. Donc, ce budget, s'il se résume, maintien des taux, maîtrise des dépenses de personnel, maintien des taux d'investissement, de subvention aux associations, maintient d'ailleurs des dépenses de fonctionnement et avec la prise en compte, bien sûr, des conséquences de l'épidémie dans ce qu'on y connaît aujourd'hui. Voilà. Jean-Luc, je te laisse continuer, si tu veux.
Merci, merci beaucoup. Donc, en effet, bon, vous voyez le contexte dans lequel nous sommes. La caractéristique principale, évidemment, de ce budget, c'est son adaptabilité du fait de la crise, et Raymond vient de l'exprimer à l'instant, puisqu'il s'agissait pour nous, eh bien, en étant en plus, un peu plus, en fait, des dotations de l'État, en capacité de pouvoir, donc, réadapter les choses. Et donc, voilà, on a pu intégrer les dépenses qui ont été faites dans le cadre des diligences que j'ai dû prendre durant cette période de confinement et qui ont donc conduit à protéger d'une certaine manière à la fois la population mais aussi nos agents. Donc ça, c'était vraiment un élément très 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 important. Que de façon parallèle, il s'agissait pour nous aussi de pouvoir encourager nos agents, et c'est ce que vous le savez, nous avons fait au niveau des primes qui ont été faites, que nous avons pu aussi souhaiter maintenir les taux, ça va de soi, avoir une démarche aussi en direction du tissu économique et commercial de notre ville pour permettre justement de les accompagner dans les difficultés que les uns et les autres connaissent, et en lien avec Metz Métropole et puis également la région. Et puis s'agissant donc de nos investissements, je vous rappelle, et Madame Vollmer évoquait tout à l'heure Metz Métropole et transfert de compétences, que en effet depuis le 1er janvier 2018 nous avons pu, et l'accession au rang de métropole, donc transférer la voirie donc à Metz Métropole, mais que néanmoins nous travaillons en amont pour permettre bien justement de puisque nous sommes les élus de terrain et en lien avec la réalité, donc de préparer les investissements et de voir avec les différents services et notamment les concessionnaires des réseaux comment est-ce qu'on peut préparer l'avenir et donc en lien avec Metz Métropole. Je rappelle que en effet c'est un budget qui est fondateur, qui est adaptable, mais qui est aussi finalement est tout à la fois à dimension humaine, urbaine, sociale, familiale. On l'a vu à travers toutes ces déclinaisons qui ont été exprimées par Raymond Weinheimer, en ce qui touche finalement toutes les générations et en préparant bien évidemment l'avenir par le biais des investissements. Et là, on va essayer de maintenir cette année, donc de façon quand même très concrète, ces dépenses à hauteur de 5 050 000 euros, donc sur notamment l'investissement que nous faisons avec le restaurant scolaire dont nous avons pu donc que nous avons pu mettre en œuvre. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, madame, au niveau du DOB, on peut s'en réjouir. On espère que, bien évidemment, avec les mesures nécessaires, il va falloir être agile et s'adapter aux circonstances, mais d'ici quelques mois, on espère que voilà, il y aura moins de problèmes qu'aujourd'hui. Que nous poursuivons également le travail de déconstruction et de dépollution sur le quartier Lysée en lien avec l'EPFL, donc voilà, avec un crédit engagé à hauteur de 20% des sommes sur cette opération, ce qui représente 127 500 euros sur le quartier Lysée. Donc sur les autres opérations, continuité donc de la réfection de l'accueil de l'hôtel de ville, et on peut s'en réjouir pour nos services de population et d'état civil, des travaux à réaliser dans les lieux de culte à Jeanne d'Arc en particulier, donc après Saint-Joseph, c'est Jeanne d'Arc. Voilà, suite au diagnostic technique que nous avions diligenté donc sur le bâtiment, on voit d'ailleurs on a vu les grues qui étaient sur la toiture, sur les escaliers, etc. Voilà, sur les bâtiments scolaires, bien évidemment, avec une dépense de presque 500 000 euros, 467 950 euros, avec une nouvelle chaudière et la réfection des menuiseries extérieures du groupe scolaire Marc Sandier. Donc voilà, c'est l'ensemble des scolaires. On refait également le préau de l'école Pougin, et puis il y a également des défibrillateurs dans tous les établissements scolaires. Et puis j'ajoute évidemment dans ce contexte-là les dépenses que nous avons faites lors de la période de confinement, qui ont dû évidemment tenir compte des exigences tout à fait drastiques formulées par l'éducation nationale pour protéger à la fois les enfants, les enseignants et enfin l'ensemble des usagers de nos écoles. Les travaux à réaliser également, donc ici, une réadaptation sur un certain nombre de choses ici dans cette salle Europa, qui est magnifique et qui joue parfaitement bien son rôle, hein, ce soir en particulier. Voilà, il a fallu, on a quelques adaptations encore à faire, et c'est légitime sur un gros projet comme celui-ci. Des travaux sur les équipements sportifs à hauteur de 277 400 euros, avec des dépenses sur les gymnases, et en particulier à Bernanos, sur l'éclairage, pour accueillir nos championnes qui passent en National 1. Voilà, de grande, on s'en félicite. Des dépenses sur la piscine, la conformité des installations. Piscine, je précise que nous espérons pouvoir l'ouvrir pour le premier jour des vacances, le 6 juillet, donc c'est un petit scoop pour le Républicain Lorrain, et puis pour vous aussi d'ailleurs, mes chers collègues. Donc, premier jour des vacances, ouverture de la piscine, et je pense qu'on y travaille actuellement avec les services, avec Lucien Vetch, pour voir comment est-ce qu'on peut adapter au mieux de nos capacités l'accueil des publics, et singulièrement des jeunes, et l'apprentissage de la natation étant pour moi un objectif majeur, mais aussi de toutes les générations. Donc il va falloir vraiment être adaptable là et donner un maximum de souplesse avec deux maîtres mots, social et familial. Le stade Kinsich, toujours, la conformité des installations sur les aires de jeu, les jeux du jardin sous la fontaine, City Stade de la Vaquinière, jardin sous la fontaine où nous faisons un petit jardin partagé. J'en suis très heureux parce que c'était, vous voyez, on fait pas que des bâtiments. On avait gelé un lieu sur lequel il était prévu de construire un immeuble. On a déclassé pour qu'il devienne un jardin partagé. Donc voilà, les choses se déclinent avec une petite association qui a été créée. Des dépenses sur la Vaquinière, le City Stade, et puis 23 000 euros pour les différents centres culturels et pour la réfection du chauffage de l'école de cirque, rue des Couvents. Les voies et réseaux pour 462 000 euros sur des voies non transférées et réseaux non transférés à Metz Métropole, avec des travaux de déclarage public. En accompagnement des renouvellements de candélabres, de luminaires, signalétiques horizontales et verticales, et des aménagements d'espaces verts, et notamment sur la création, j'en suis très fier parce que ça procède d'un projet porté par nos agents, d'une forêt nourricière sur le site des prairies Jean-Marie Pelt. Des opérations également d'aménagement urbain pour 48 000 euros, avec notamment des régulations foncières et l'acquisition d'un terrain dans la ZAD, c'est une zone d'aménagement différé, donc Jean-Marie Pelt. Voilà, on poursuit. Et également, je propose que nous puissions poursuivre l'aide à l'acquisition des vélos à assistance électrique et ainsi que d'audit énergétique. Je proposais d'ailleurs à Metz Métropole, demain, on a le conseil métropolitain avec quelques élus qui sont ici, en audio et en visio, que nous puissions aussi élargir cette politique à l'ensemble des communes de la métropole. Ça, c'est aussi un petit scoop pour ce soir. Sous les vélos, l'acquisition des vélos, donc les Montignens pourront en profiter aussi. Et puis, l'acquisition de véhicules, dont notamment une balayeuse de voirie et un tracteur, donc à hauteur de 286 000 euros. Et puis, il y a d'ensemble d'autres opérations pour 420 000 euros sur des équipements divers, mise en sécurité dans les bâtiments, les cimetières, les aménagements dans les structures multi-accueil, avec évidemment 50% d'aide au niveau de la CAF. Voilà donc un petit peu de façon un peu détaillé, puisque Raymond Weinheimer m'y a invité, ce que je voulais vous dire s'agissant notamment des dépenses d'investissement que nous vous proposons pour cette année. Y a-t-il des interventions? Alors, Madame Vollmer, ensuite Monsieur Somny. Madame Vollmer.
Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, Monsieur le maire, et donc ça prouve que s'il est possible de faire des jardins partagés sur le milieu de la ville, je pense qu'il est possible d'empêcher des immeubles à la place de l'ancienne école maternelle et d'y mettre des espaces verts ou du parking. Voilà, je vous prends au mot. Je vous prends au mot. Donc, par rapport à ce que vous nous avez présenté, il est vrai que la situation économique était déjà préoccupante avant la pandémie. Elle l'a été pendant, elle va l'être après. Ça veut dire aussi, et c'est peut-être un peu ce qui a manqué dans vos interventions, c'est le quotidien des Montigniennes et des Montigniens, parce qu'il y a des Montigniens et des Montigniennes qui ont eu faim et qui vont encore avoir faim. Pour notre groupe, l'humain avant tout, nous proposons que dès septembre, la possibilité de la mise en place pour tous les ménages non imposables des tarifs de cantine à 1 euro et voire même à 50 centimes pour toutes les familles vivant du RSA et des minima sociaux. Ça serait la première étape vers la mise en place des tarifs en fonction des revenus. C'est une nécessité. Vous avez opéré une certaine ouverture à gauche avec des sociodémocrates qui défendaient cette proposition au niveau des tarifs de cantine. Dans le contexte actuel, prouvez à vos citoyens que vous en tenez compte et amorcez le courant. Lors des précédents débats, les niveaux de la taxe d'électricité, la GEMAPI, ont été mises en place aux taux les plus élevés. Là aussi, une baisse devrait être proposée par la métropole, dont vous êtes encore le président. Des recettes en moins, certes, mais cela donnerait un signe fort aux citoyens de la prise en compte de leurs préoccupations, qui vont aller en s'aggravant. Sont absentes aussi les actions vers nos aînés et le tissu économique. Le tissu associatif est important et il devrait être accompagné pendant l'été pour aider à relancer la vie et éviter surtout les situations tragiques. Pourquoi ne pas impulser un état des lieux des commerçants, des professions libérales et artisans? Pourquoi ne pas accompagner les associations qui œuvrent avec les anciens pour maintenir des actions durant l'été? Pourquoi ne pas travailler à la prise en charge des enfants qui ne pourront pas partir en vacances avec des activités enrichissantes? Je suis contente d'entendre que la piscine va ouvrir. Je rappelle que nous avions proposé la mise en place d'une colonie de vacances dans notre programme, mais pourquoi ne pas commencer à y répondre aux nouveaux besoins de la population dans un contexte vraiment très particulier? Nous proposons aussi la mise en place d'un comité de veille sanitaire, on en avait parlé, face à cette situation qui a été vécue à Montigny. Ne pas attendre les directives, anticiper et travailler avec le corps médical, les pompiers, pour pallier justement à nouveau ces risques. Sur l'investissement, effectivement, nous restons dans une gestion courante ou en tout cas dans le plus urgent. J'émets une proposition. L'étude pour une vraie crèche traditionnelle et communale, car pour le moment, ce sont des structures privées qui se mettent en place, preuve que les besoins existent, mais ces crèches ont leurs limites. Elles l'ont montré, ce sont les crèches municipales qui ont fonctionné pendant la crise. Ce n'est d'ailleurs pas ce qui est prévu sur le quartier d'Isée. Si nous voulons attirer de la population jeune, nous avons besoin d'une telle structure. Aujourd'hui, il est impératif de mobiliser nos énergies pour répondre, accompagner, anticiper les difficultés des Montignaines et Montigniens. Comme disait d'ailleurs un grand savant, Albert Einstein, l'État est notre serviteur et nous ne devons pas en être les esclaves. Propos d'ailleurs conforté par notre chanteur populaire Pierre Perret, Les Confinis, que je vous invite à regarder et écouter. Merci.
Merci Madame. Monsieur Somny.
Je ne sais pas s'il fonctionne. Moi, je serai bref. Votre slogan pendant les élections municipales était « Montigny avance ». Oui, c'est vrai. Montigny avance et continue d'avancer d'ailleurs. Mais dans la dette, comme par le passé. D'ailleurs, avec 3224 voix, certains ont été plus sanctionnés que d'autres. Leur moralité étant aussi basse que leur score au municipal. Y aurait-il un monsieur plus à Montigny-les-Messes? Monsieur plus de taxes? Plus de dettes? Vous parliez de haut niveau, au début du Conseil. Ce qui est haut, c'est le taux de la taxe électrique que vous avez fait voter. C'est vous, monsieur le maire, qui l'avez fait voter à Metz Métropole. C'est personne d'autre, c'est vous qui avez mis ça en place. En septembre 2018, 8,5%. Ça, ça impacte directement les Montigniens. Aujourd'hui, tous les Montigniens ont une facture d'électricité et ils doivent dire merci, monsieur le maire de la commune de Montigny-les-Messes, pour cette hausse de 8,5%. Voilà, c'est bref, c'était ce que j'avais à dire.
C'est très constructif. Je vous remercie de l'un et l'autre de vos interventions. Vous évoquiez, madame, le quotidien des gens. Mais il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, moi. Il n'y a rien d'autre. D'ailleurs, les gens ont sectionné, même si monsieur Somny dit qu'ils n'étaient pas aussi nombreux que prévu. Mais enfin, c'est quand même mon quatrième mandat. Donc, quelque part, ils ne sont pas tout à fait lassés, monsieur Somny. Ce qui n'est pas tout à fait le cas lorsque vous faites vos comptes, si vous regardez bien. Enfin, bref. Vous faites votre boulot, moi je fais le mien. Ce qui m'intéresse, l'humain avant tout, moi c'est l'humain Montigny qui m'intéresse. Et nous travaillons bien évidemment, et plus que jamais, au niveau du CCS et des organismes qui nous sont associés. Et je pense en particulier aux associations. Et je ne sais pas si vous avez écouté tout à l'heure monsieur Feinemer dire que nous maintenons la voilure sur le tissu associatif. Pourquoi ? C'est vrai que dans une période difficile, on aurait pu se replier sur soi et puis couper les robinets, parce que d'autres collègues le font, hein, dans d'autres circonstances. Et bien nous, justement, précisément dans ce moment difficile, nous préférons soutenir la vie associative, parce que c'est celle qui crée du lien, c'est celle qui crée de la vie et de l'activité dans notre ville, et spécifiquement auprès des jeunes et de toutes les générations. Donc durant ces vacances, on ne va pas créer des colonies de vacances, puisque nous avons déjà des CLSH et de l'animation urbaine qui se fait, de l'animation estivale, avec, si possible, un maximum. On va voir comment on va y être invité par les autorités sanitaires de l'État, mais ce que nous aurons à faire, nous le ferons avec les deux socles que constituent l'oisericulture, Marsannier, les cheminots probablement aussi. Donc, on va voir comment tout cela va s'organiser et avec les collègues en charge des différents dossiers, bien évidemment, nous aurons à orchestrer tout cela. Mais moi, plus que jamais, je crois que c'est nécessaire de le faire, comme nous sommes rapprochés, je l'ai dit tout à l'heure, des commerçants, des artisans également, pour soutenir de manière particulière, et notamment en matière de communication et autres, avec Metz Métropole, puisque nous sommes dans une logique plus large encore, vous allez voir ces campagnes que nous allons faire. Et puis, donc voilà, je crois que vous dites qu'on n'a pas anticipé. Si, on a anticipé, j'ai fait que ça. On a anticipé durant toute cette période de confinement, au jour le jour, c'était nécessaire de le faire. Donc ça nécessite de l'agilité, ça nécessite bien qu'on s'adapte aux réalités, et qu'on prévoit aussi la suite, le futur. Et la suite, c'est pas après-demain, c'est pas demain, c'est après-demain, c'est l'année prochaine. Et aujourd'hui, voilà, il faut qu'on fasse un budget qui soit un socle, qui rassure, qui accompagne, et notamment les différentes générations. Je crois que c'est vraiment nécessaire. S'agissant également des crèches, je rappelle, ce ne sont pas des crèches municipales, mais ce sont enfin des structures associatives qui sont accompagnées par la ville, et que je suis très content qu'il y ait cette petite nébuleuse de crèches privées. Et sans oublier, parce que c'est très important pour moi, le relais parents assistantes maternelles que nous avons créé il y a quelques années à la maison de la famille, qui est un excellent socle également, puisque là ça correspond à une diversification des modes de garde. Donc voilà, je crois qu'on a vraiment du lourd à proposer à ce niveau-là et du concret, et que s'agissant donc des taux que vous évoquez, moi si vous voulez qu'on baisse la GEMAPI, pourquoi pas, on peut toujours tout baisser et faire tout gratuit. Sauf que demain, si nous avons des problèmes d'inondation, je peux vous dire que les habitants qui en seront victimes, ils seront les premiers à venir vous chercher en disant « Mais pourquoi vous n'avez pas financé les études ? Et puis pourquoi vous n'êtes pas allé chercher plus loin ce qu'il fallait faire pour résorber les crues ?» Donc voilà, je crois qu'on a vraiment une problématique qui est très importante à suivre à ce niveau-là. Moi, je ferais bien les économies des taxes et de tout ce qu'il s'agit, de tout ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, nous avons les taux les plus bas en matière de taxes foncières, par exemple. Voilà, on essaye d'être adaptable et d'être réaliste par rapport à une situation qui est celle de notre commune et des habitantes et des habitants de notre commune. Donc, s'agissant notamment des personnes les plus fragiles, des personnes qui sont susceptibles d'être dans la difficulté, ben, vous pouvez me croire, et je l'ai vérifié dans la période la plus difficile, qui est celle que nous venons de traverser, la plus concrète, eh ben, on était là au rendez-vous et on n'a pas raté, je peux vous dire, Il faudra continuer d'ailleurs, parce que les situations de personnes qui sont isolées, qui sont dans une solitude et qui se confinent parfois à une sorte de relégation, c'est impensable. Donc il faudra qu'on travaille sur comment accompagner toujours mieux, comment essayer de faire auprès de ces personnes des formations pour, par exemple, essayer d'être intégrés par le numérique, parce que ça, je pense que c'est aussi quelque chose. Donc il y a plein de choses à faire. C'est à nous, on a été élus pour ça. Ce soir, c'est la deuxième séance du conseil municipal. À nous de bosser et de voter ce budget que je vous propose maintenant. Est-ce qu'il y a des oppositions? Ah, pardon. Raymond.
Un peu répondre aussi à Mme Vollemer et à M. Somny. Mme Vollemer, je vois que vous avez évolué, puisqu'avant, la cantine, c'était zéro. Donc maintenant, on a quand même vachement évolué. Et en fait, ce que vous proposez, notamment le tissu associatif, il vient de le dire, on a débattu à l'époque pour justement savoir dans quelle mesure, sur quel poste on faisait des économies, et un sur lequel tout le monde est d'accord, c'était sur le fait de bien soutenir ce tissu associatif et de ne pas le laisser tomber pour justement... Alors, on a eu de la chance, puisqu'il y a eu le corona qui est arrivé après, ce qu'on n'avait pas prévu à l'époque, mais ça se trouve en fait comme ça, et notre souci depuis longtemps, c'est de conserver ce tissu associatif. D'autre part, l'aide économique, on en a parlé, nous avons un fervent défenseur ici qui s'appelle Salvatore Tabone, et qui a demandé notamment à ce que la municipalité participe avec Montigny Entreprendre à aider les commerçants pour développer et pour faire revenir les personnes, les clients dans leur commerce. Ça, c'est une chose dont on aura l'occasion de parler. Ensuite, à M. Somny, je dirais que le sujet habituel que vous avez, c'est l'endettement. Oui, on peut le critiquer, sauf qu'aujourd'hui, si vous voulez, si on ne profite pas des taux qui sont notamment à zéro qu'on a eu l'année dernière pour financer notamment le restaurant scolaire et les autres taux qui sont à 0,74%. Si c'est pas aujourd'hui qu'on en profite, on n'en profitera sûrement pas demain, parce qu'avec les déficits qui se creusent, il y a de fortes chances pour que ces taux remontent. Ensuite, pour ma part, quand cet emprunt sert l'investissement, je crois que c'est pas un emploi inutile, au contraire, c'est en fait l'investissement qui se développe et qui fait travailler aussi, qui donne des richesses au niveau économique, et donc je crois que c'est aussi notre travail de le faire. Et si vous voyez bien en fait comment ça se passe aujourd'hui, on a de moins en moins d'aides de diverses et variées, puisqu'à l'époque on avait des subventions pour la piscine, subventions pour les grands équipements, investissements qu'on faisait. Aujourd'hui, tout le monde cherche de l'argent partout, donc finalement on n'en a plus non plus, puisque nous on est le dernier échelon de toutes ces collectivités. Et d'autre part, vous avez bien vu que là, par exemple, la DGF, aujourd'hui, on est quand même à la hauteur de celle de 2008. Donc, il faut trouver de l'argent pour essayer de combler ce manque. Et en plus de ça, quand on utilise l'emprunt à ce niveau-là, c'est aussi pour ne pas utiliser tout notre autofinancement et pour préparer l'avenir et pour garder des finances stables. Je vous ferai remarquer quand même que ça fait 19 ans que nous préparons des budgets, et jusqu'à présent, nous n'avons jamais mis la commune en péril, et nous avons toujours eu, que ce soit de la Cour des comptes ou que ce soit du trésorier ici à Montigny, des compliments sur la gestion prudente. C'est vrai que certains nous l'ont des fois reproché, mais je pense que c'est celle qui nous permet aujourd'hui, et notamment dans les conditions difficiles que nous vivons aujourd'hui, de passer ce cap et de préparer l'avenir pour après, et pas avoir les autres années plus rien à faire et plus d'investissement à faire. Voilà.
Une explication de vote, Monsieur Somny.
Déjà, pour vous répondre à vous, je voulais dire que vous avez parlé de vos trois mandats, que vous attaquez le quatrième. Je voulais dire que trois mauvais mandats ne garantissent pas un quatrième vertueux. Ça, c'est déjà pour vous dire. Pour répondre à notre spécialiste de la comptabilité, je ne savais pas qu'il était Madame Irma. Jusqu'à présent, sur la planète, personne n'arrive à dire comment vont évoluer les taux. Ce que vous faites, c'est jouer avec l'argent des Montignans. Ensuite, je dirais que vous tous, vous êtes les spécialistes de la démagogie verbale. Voilà.
Monsieur Laurent.
Merci, monsieur le maire. Juste un point d'ordre. Déjà, M. Somny, ça fait 4 fois que vous nous expliquez que le taux d'abstention était lamentable. En 2014, vous avez couvert la ville et rempli dans toutes les boîtes aux lettres un tract avec écrit « Front National, premier parti de France ». Suite aux européennes, vous avez fait un peu moins de 24%. Ce jour-là, il y avait eu près de 60% d'abstention. Ça, vous l'avez oublié dans votre tract. Donc vous avez une... Bien sûr que je me désole de l'abstention qu'il y a. Mais à un moment donné, vous avez des explications à géométrie variable. Si le FN est en tête, l'abstention c'est bien. Si c'est nous, c'est pas bien. Un peu de cohérence, s'il vous plaît. Et vous souhaitez pas qu'on vous assimile à l'extrême droite. Eh bien, commencez par arrêter d'utiliser les méthodes de l'extrême droite. Vous avez fait 4 attaques abdominales ce soir. C'est scandaleux d'attaquer les personnes. Si vous ne savez pas attaquer les arguments, ne vous en prenez pas aux personnes. Merci.
Je vais vous répondre, monsieur Laurent. D'accord. Merci la démocratie. Parce que le verbe, je sais le jouter aussi, monsieur Laurent. Moi, je n'ai pas changé de côté, je n'ai pas été de la gauche vers la droite. Je sais d'où je viens et je sais très très bien où je vais.
J'ai juste encore une petite précision sur cette reproche d'endettement qu'on nous fait. L'adjoint parle du budget et des attaques que vous avez faites sur le budget et la gestion de la ville. Donc, vous nous faites le reproche chaque fois de l'endettement. Je vais vous donner quelques chiffres, monsieur. Fréjus, c'est chez vous, non, je crois. 2 374 € par habitant. Montigny, 1055. Hénin-Beaunon, c'est aussi chez vous, là. 1 621 € par habitant. Béziers, 1 387, etc., etc. Les taux de taxes d'habitation. Béziers, 19,53. Montigny, 15,24. Villers-Cotterêts, 18,90. Alors, qui emprunte et qui fait payer des taxes plus élevées à ses concitoyens? Je ne crois pas que ce soit nous. Merci.
Monsieur, c'est bien. Bien, la séance est... l'épisode est clos. Donc, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Madame, opposition?
Non, je crois qu'il y a une chose que vous avez oubliée, c'est le vote du taux d'imposition. D'accord, ok. Donc nous nous abstiendrons.
Donc opposition, abstention, 4 abstentions, donc le vote du budget, donc le budget est adopté et je vous en remercie.